Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue à l'émission Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Très heureuse de vous retrouver cette semaine encore. Suivez l'actualité de notre association en vous rendant sur les différents sites du groupe, celui de la maison mère, si je puis dire, mariedenazareth.com, ou alors 1000raisonsdecroire.com, notre dernier né, je précise, 1000 en chiffres. Alors cette semaine, bonjour Justina.
Bonjour.
Vous allez rendre à César ce qui lui appartient.
On va essayer.
Nous allons écouter ça dans quelques instants. Ensuite, très grande joie de vous accueillir de nouveau, Benoît.
Bonsoir.
Benoît de Fleurac, qui avait eu la gentillesse de venir il y a presque un an pour nous parler des écrits de Maria Valtorta. Nous évoquerons la Toussaint, puisque nous nous en approchons. Voilà, à tout à l'heure, Benoît. Justina, plongeons dans Matthieu au chapitre 22.
Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, j'ai pris l'évangile selon Matthieu, qui est tiré du calendrier catholique romain, selon la messe traditionnelle.
Merci.
Donc, mais je vais le lire à la byzantine, parce que tout le monde réclame ça. En ces temps-là, les pharisiens allèrent se concentrer en vue de le surprendre en parole, et lui envoient leurs disciples accompagnés des hérodiens pour lui dire « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. Dis-nous donc ta vie, est-il permis de payer ou non l'impôt à César ? Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta : Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Faites-moi voir l'argent de l'impôt. Ils lui présentèrent un denier. Il leur dit : De quelle effigie que voici ? Et l'inscription, ils disent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À ces mots, ils furent tous surpris en le laissant. Ils s'en allèrent. Et donc, je vais me permettre de commencer par les petites précisions historiques, avant tout. Selon le droit romain, tout l'argent de l'Empire appartient à l'empereur. Les citoyens et les peuples conquis ne font qu'emprunter l'argent de César. Sur une pièce romaine de l'époque, vous avez d'un côté de la pièce avec la représentation d'une divinité païenne et de l'autre côté le profil du César, l'élu du Panthéon. C'est la raison pour laquelle il y avait une monnaie propre au temple de Jérusalem, ce qui empêcherait l'achat des animaux destinés au sacrifice avec une monnaie romaine non conforme, puisque c'était finalement une idole format poche. En second lieu, la question posée au Christ est une question piège. Si sa réponse avait été un oui ou un non, dans les deux cas, il risquait l'arrestation. S'il se prononçait favorablement aux impôts impériaux, les pharisiens auraient pu l'accuser d'être un collaborationniste avec l'Empire qui faisait souffrir le peuple d'Israël et ainsi le déclarer comme un faux messie n'aimant pas son propre peuple. Si le Christ se montrait hostile aux impôts en faveur de l'Empire, la garde hérodienne pouvait l'arrêter sur le champ comme un révolutionnaire nuisible à l'ordre public. Donc le Christ part de cette situation pour répondre « Montrez-moi donc l'argent avec lequel vous payez l'impôt à César. Eh bien rendez-lui ce qui est à lui et à Dieu ce qui est à Dieu. » Maintenant que la clarification historique est faite, je vais actualiser ce passage pour nous. Pendant longtemps, ce passage a été interprété de manière à faire fermer la bouche de celui qui est en désaccord avec le pouvoir. Il suffit d'être mécontent ou de ne pas adhérer aux idées de votre interlocuteur, même chrétien, mais d'un autre bord politique, il vous donne cette citation comme un impératif. « Rends à César ce qui est à César » ou bien « Tu es contre le Christ ». Mais je reviens au texte. La question de pharisien « Est-il permis de donner l'impôt ?» et pas « Sommes-nous obligés ?» Je reformule la question comme si c'était aujourd'hui. Si un pouvoir antichrétien vous oblige à vous soumettre dans des questions du quotidien, est-ce qu'un chrétien peut s'y soumettre ? Le Christ dit « Oui, il n'y a point de danger pour ton âme si tu t'y soumets dans des questions terrestres. » Il ne nous y oblige pas, mais il dit que c'est permis. Il ne dit pas que c'est génial d'être soumis à César. Mais de plus, on oublie généralement la fin et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Aucun pouvoir terrestre ne peut et ne doit vous obliger dans les questions de conscience, de la foi et des vos relations avec Dieu. Car ceci appartient à Dieu. Si le pouvoir vous impose de renoncer à la foi, là nous sommes dans le domaine de Dieu et ici tu ne serviras que ton Dieu qui est ton maître. Alors ce sera souvent le chemin du martyr. Par contre, on ne peut pas fermer la bouche de quelqu'un qui se questionne « Où vont mes impôts ?» par cette citation afin de glorifier tout pouvoir, tout régime en toute heure. Après tout, ce n'était qu'une réponse à une question piège.
Et il s'en est bien sorti. Merci beaucoup, Justina. Alors, j'avais beaucoup aimé le CD des séminaristes de Lisieux avec leur chant Vivre d'amour il y a 15 jours. Je vous en propose un nouveau morceau, tout simplement Les saints et les saintes de Dieu, puisque nous parlerons de la Toussaint tout à l'heure, toujours CD, tiré du CD, pardon, car il n'est qu'amour.
Appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Rebonsoir Benoît.
Bonsoir France.
Benoît de Fleurac, parlons de la Toussaint chez Maria Valtorta, mais auparavant, je rappelle que vous êtes le représentant pour la France de la Fondation héritière de Maria Valtorta depuis 2017. Responsable du site valtorta.fr et de la newsletter Jésus aujourd'hui, projet développé par l'association Marie de Nazareth. Alors, la Toussaint, cet accord est une union parfaite du ciel et de la terre. Jésus dit à Maria Valtorta dans son cahier du 14 août 1943 une phrase magnifique. Vraiment, elle m'a beaucoup touchée. « La communion des saints unit les catholiques du passé avec ceux du présent, les catholiques qui peinent avec ceux qui luttent et ceux qui jouissent du bonheur. Le ciel, la terre et le purgatoire s'entraident et se complètent mutuellement et de la même façon, les membres de l'Église militante doivent s'entraider et se compléter mutuellement. » Que dit après Maria Valtorta, Benoît?
Jésus dit: j'ai fondé une vraie société dont les membres vivent, dans ma pensée, l'un pour l'autre, dont l'un est le soutien de l'autre. Du plus grand au plus petit, vous avez tous une raison de faire partie de la splendide équipe de mon Église, une dans l'essence et trine dans la forme, comme son roi et pontife divin, à la fois un et trine avec le Père et l'Esprit. Oh, sublime charité qui est née de mon cœur! Déchiré par la trahison avant d'être déchiré par la lance, signe vivant de l'appartenance à moi. Si vous pouviez voir la valeur que possède, aux yeux des êtres célestes, l'amour que vous avez les uns pour les autres, comme pour des frères et sœurs, selon mon commandement d'amour, personne d'entre ceux qui sont dotés d'intelligence ne voudrait ne pas aimer son prochain avec pureté, avec une vision spirituelle et une spirituelle ardeur. Ainsi s'aimaient mes premiers disciples, et c'est leur façon de s'aimer qui a convaincu le monde de la vérité du Christ.
Alors dites-nous.
On pourrait deviser pendant des heures tellement ce passage est riche. Oui. Il me rappelle deux autres textes de Maria Valtorta, un au chapitre 445 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé,
oui,
où Marie dit à Jésus « Nous savons que la charité des trépassés est attentive et toute proche. Les morts ne se désintéressent pas de nous et ils n'ignorent pas ce qui arrive aux êtres aimés qu'ils ont quittés. » La dernière phrase, lorsque Jésus parle des premiers disciples, fait penser également à cette sublime dictée des Carnets en date du 25 avril 48, où Jésus nous exhorte à revenir aux méthodes du temps des catacombes. On n'entend plus, ou très rarement, cette exclamation des païens des premiers siècles. « Voyez comme ils s'aiment et comme ils sont vertueux. Voyez comme ils nous aiment. » Si le monde d'alors est devenu chrétien, il le devait à cette constatation de ce qu'étaient le clergé et les chrétiens des premiers siècles. C'est par la constatation inverse que le monde d'aujourd'hui redevient païen, athée ou livré à Satan. Le message est limpide. L'amour est la clé.
Et ça, c'était déjà en 1948. Alors, nous parlons souvent des écrits, bien sûr, de Maria Valtorta. Le fait de les recevoir du Christ, c'est déjà mystique en soi, mais il y a encore autre chose. Expliquez-nous, quelle est cette expérience mystique que Maria Valtorta a vécue le jour de la Toussaint 1946?
Ce jour-là, Maria Valtorta s'est retrouvée immergée au paradis avec,
oui,
tous les saints. On peut l'imaginer entourée des personnes décédées qu'elle a aimées sur terre,
oui,
les saints avec qui elle correspondait souvent, comme Thérèse de Lisieux ou d'autres. Elle-même ne parle pas directement de cette expérience. C'est son ange gardien, oui, Azarias, qui la relate deux jours après en ces termes.
Alors, juste une question, comment savait-il qu'il s'appelait Azarias?
Alors, Azarias, c'est le conseiller intérieur de Maria Valtorta. Comme chaque ange gardien, il est une aide du Seigneur qui se manifeste plus explicitement à certaines occasions précises, sur son ordre et pour sa gloire. Il veille essentiellement sur la vie des trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, dans l'âme de la personne qu'il protège. Alors, la première fois où Azarias se révèle à Maria Valtorta,
oui,
c'était le 15 janvier 46. On peut lire cela dans les cahiers de 45 à 50.
D'accord.
C'est le soir. Maria Valtorta est couchée et elle dit sa prière. « Me voici, bon Jésus que j'aime, je contemple tes cinq plaies, etc. » Et puis celle de la croix et encore l'acte d'offrande comme je le fais chaque soir. Je termine par les Gloria aux saints anges et archanges et enfin à mon ange gardien. À ce moment-là, je m'interromps pour questionner ce dernier. « Mais comment t'appelles-tu ? Tu dois bien avoir un nom. Je t'appelle mon conseiller intérieur, mais je voudrais t'appeler par ton nom. » Il m'apparaît à côté de mon lit, à droite, vers le fond, et répond immédiatement avec un grand sourire. « Azarias. » « Azarias ? Vraiment ?» Il sourit encore et rétorque. « Tu n'en es pas sûr ? Récitons ensemble le Veni Sancti Spiritus. Et cette Gloria, comme je t'ai enseigné depuis quelques années, pour obtenir une réponse et un guide de la part de l'Esprit-Saint en cas de besoin. Puis ouvre la Bible au hasard. Le premier nom que tu verras, c'est le mien. » Je récite cette prière avec lui, puis j'ouvre la Bible. Elle s'ouvre au deuxième livre des Chroniques, au chapitre 15. Azarias, le fils d'Obed, etc. Toujours souriant, l'ange dit « Tu trouveras la signification de ce nom dans le livre de Tobie, dans les notes en bas de page. » Je cours au livre de Tobie. Je trouve en bas du chapitre 5, Azarias signifie aide du Seigneur. De sorte que Azarias, fils d'Anani, veut dire aide du Seigneur, fils de la bonté du Seigneur. L'ange dit alors, c'est bien cela. Et il me regarde avec douceur en souriant.
Merci beaucoup, Benoît. Alors, donc, revenons à cette expérience mystique, maintenant que nous savons qui est Azarias, vécu le jour de la Toussaint, 1946.
Voilà. Alors, Azarias dit à Maria Valtorta, donc trois jours après que Maria Valtorta ait été transportée au paradis.
Alors, donc, elle a été transportée au paradis.
Oui, oui, tout à fait. Elle a eu cette... plus qu'une vision, c'était vraiment un transport entier au paradis.
Oui.
Et Azarias lui dit, « Je ne t'ai rien dit le jour de la Toussaint, parce que le paradis tout entier te parlait avec son amour. » Tout était leçon dans le bonheur dont tu jouissais. Je suis donc resté à côté de toi, en tuteur du mystère, adorant avec toi la divinité qui te comble de bienfaits. Que devais-je dire de plus? Tant ce que tu voyais, ce que tu goûtais, ce que tu comprenais te parlait déjà. L'Église glorieuse, en te donnant ce que tu as appelé son amour, et cela en était une juste définition, te fournissait l'explication la plus belle et la plus juste de ce qu'est le dogme de la communion des saints, de ce qu'est la sainteté et la manière de devenir saint, de ce qui constitue la récompense de ceux qui savent y parvenir. La liturgie de la Toussaint se transformait de parole en vision, de vision en compréhension, de compréhension en participation. Quant à moi, je me taisais en veillant et en vénérant.
Alors, ce qui veut dire que Maria Valtorta n'a pas qu'écrit, elle a donc vécu des choses incroyables.
Oh oui, beaucoup. Mmh. On peut penser aussi aux dernières années de sa vie où elle a vécu dans une sorte d'isolement psychique. Et il est probable qu'elle a bénéficié de nombreuses grâces du ciel sur cette période.
Vous dites isolement psychique parce que elle a eu des, comment dirais-je, a été harcelée pour quelque chose, elle passait pour folle.
On peut supposer que c'est un dérèglement de sa santé, alors soit un AVC, soit une forme de d'attaque qui a fait qu'elle ne, elle disait peut-être une phrase par an, oh comme il fait beau aujourd'hui, ce genre de choses, et elle ne répondait pas, elle restait insensible à ce qu'on lui disait ou à l'extérieur.
Oui, d'accord.
Elle est restée 4 ans comme ça.
4 ans, d'accord. Très bien. Alors, déjà lors de la rédaction de son autobiographie, avant le début des dictées et des visions, Maria Valtorta a parlé de la communion des saints.
Oui, page 432 de son autobiographie, Maria Valtorta nous dit « L'un des dogmes qui m'attire le plus dans notre religion est celui de la communion des saints. Lorsque je pense que la joie dont je bénéficie m'arrive des flots célestes dont l'afflux est formé des mérites du Saint par excellence, unique parmi tous les fils des hommes, je veux parler de mon bon Jésus et des grâces provenant de la plaine des grâces, ainsi que de la somme des œuvres de charité accomplies par l'immense armée des martyrs, des vierges, des pénitents, des confesseurs. Je me sens emporté en un transport de gratitude et de joie et je sens que tant que je mériterais cette infusion de vie, je ne pourrais périr. Je suis un pauvre petit être, mais comme une armure vient au secours de ma faiblesse, les trésors des saints opèrent autour et à l'intérieur de moi et me font capable de vivre la vie de la foi. »
Alors, j'ai une question, Benoît. Je pense à nos auditeurs qui... malheureusement, ne nous auraient pas écouté l'année dernière à Noël et qui ne connaissent pas Maria Valtorta et qui se disent, mais voilà, depuis le début de l'émission, nous entendons parler de Maria Valtorta, mais finalement, de qui parle-t-il?
Alors, Maria Valtorta est une Italienne née en 1897 et décédée en 1961 et qui a une sainte femme qui était paralysée depuis l'âge de 27 ans. Et qui a bénéficié, à la suite de la rédaction de son autobiographie qui avait été suggérée par son directeur spirituel, elle a bénéficié de dictées et de visions de Jésus-Christ, de Marie, de Saint du Ciel, pendant une dizaine d'années, et surtout de 1943 à 1948. Et son œuvre principale est connue dans le monde entier sous le titre « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé », puisque en fait, elle voit sous ses yeux se dérouler la vie du Christ, à peu près 40% des épisodes de la vie du Christ, alors que dans les évangiles, on en connaît que 13% à peu près. Et donc, c'est une source de renseignements absolument mais incroyable sur la vie de Jésus-Christ, avec des détails historiques, archéologiques, etc., qui montrent la solidité de cette révélation privée.
Il y a une fiabilité.
Une fiabilité, tout à fait. Une cohérence et une grande vérité.
Oui. À l'époque, lorsqu'elle avait ses locutions, on peut parler de locutions?
On peut parler de locutions, des dictées, des visions, suivant les cas.
Oui. Elle était accompagnée par l'Église?
Oui, tout à fait. C'est sur ordre de son directeur spirituel, en fait, qu'elle a écrit son autobiographie. Et ensuite, tout de suite, quand elle a commencé à recevoir des visions et des dictées de Jésus, elle en a parlé à son directeur spirituel qui l'a encouragé, qui marquait tout ce qu'elle disait, etc. Donc, tout à fait, elle a toujours été obéissante à l'Église, toujours été accompagnée. Et on peut dire qu'actuellement, l'ordinaire du lieu, à Viareggio, est tout à fait favorable à Maria Valtorta. Donc, c'est en cours au niveau de l'Église.
Oui, d'accord. Très bien, c'est intéressant. Et quelle est la différence entre l'évangile tel qu'il m'a été révélé et les cahiers? C'est la même chose ou alors...
Alors, c'est en 1943, pendant un an, Jésus lui a dicté des enseignements qu'on peut trouver dans les cahiers de 43,
oui.
Et ensuite les cahiers 44, de 45 à 50, les carnets, il y a également...
Ah oui, parce qu'il y a les carnets en plus.
Voilà, il y a les carnets qui, en fait, des parties des cahiers qui avaient été, oubliés quelque part, qu'on a retrouvés ensuite.
Oui.
Et il y a le livre d'Azarias, qui est donc le livre de son...
L'ange.
Dicté par son ange gardien, qui sont des commentaires de 58 messes festives du missel de Saint Pie V en usage à l'époque. Voilà. Et c'est vrai que... Donc il y a d'abord, elle a eu ces dictées de Jésus qui sont un enseignement pendant les cahiers de 1943, et ensuite, elle a eu les débuts des visions de la vie du Christ.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, Jésus a dicté à Maria Valtorta une prière aux défunts. Ce sera un préambule à l'émission de la semaine prochaine, puisque nous parlerons de la mort corporelle, la mort spirituelle. Donc nous ferons le pont avec l'émission de la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez bien nous lire cette prière aux défunts ?
Le 24 octobre 1944, Jésus dicte à Maria Valtorta cette prière aux défunts. Ô Jésus, dont la glorieuse résurrection nous a montré ce que seront les enfants de Dieu dans l'éternité. Accorde la sainte résurrection à ceux que nous avons aimés et qui sont morts dans ta grâce, ainsi qu'à nous-mêmes une fois notre heure venue. Par le sacrifice de ton sang, par les larmes de Marie, par le mérite de tous les saints, ouvre ton royaume à leurs âmes. Ô Mère, dont les tourments prirent fin à l'aube pascale face au ressuscité, et dont l'attente de te réunir à ton Fils cessa dans la joie de ta glorieuse Assomption. Console notre douleur en libérant de leur peine ceux que nous continuons à aimer par-delà la mort, et prie pour nous qui attendons l'heure de retrouver l'étreinte de ceux que nous avons perdus. Martyr et saint qui exultez au ciel, adressez un regard suppliant à Dieu, et un autre, fraternel, aux défunts qui expient, pour prier l'Éternel pour eux et leur dire « Voilà, la paix s'ouvre à vous. Bien-aimés qui nous êtes chers, qui n'êtes pas perdus mais séparés, que vos prières soient pour nous le baiser que nous regrettons. Lorsque, grâce à nos suffrages, vous serez libres dans le bienheureux paradis avec les saints, protégez-nous en nous aimant dans la perfection. Soyez-nous unis par la communion des saints, invisibles, actives et aimantes, anticipation de cette parfaite réunion des bienheureux qui nous permettra de jouir de la vue de Dieu, mais aussi de vous retrouver tel que nous vous connaissons, mais rendu sublime par la gloire du ciel. »
Amen. Merci beaucoup, Benoît. Alors, je vous invite, chers amis lecteurs, auditeurs, à vous plonger, si vous ne les connaissez pas encore, dans les écrits de cette femme étonnante. C'est stupéfiant de découvrir cette mystique à travers ses écrits dictés. Je vous propose de recevoir le livret missionnaire sur Maria Valtorta. Très beau livret missionnaire. Vous m'écrivez à magnificat@mariedenazareth.com. J'aurai la joie de vous l'envoyer. J'appelle très largement nos auditeurs parce que j'en ai quelques-uns quand même à vous offrir. Donc, n'hésitez pas, ou alors vous pouvez envoyer un courrier postal à Radio Courtoisie, émission Magnificat, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Voilà. Écoutez, chers amis auditeurs, nous parlerons la semaine prochaine de nouveau de Maria Valtorta. Bonne semaine à tous et soyez bénis.